Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, plateformes web, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Louis-David Coulombe de chez Nesto. On parle entre autres de son parcours, du spin de Nesto de passer de B2C à B2B, de la possibilité de faire entrer un grand client comme investisseur dans sa startup, et la réalité au day-to-day de moderniser une industrie qui accumule un grand retard technologique. Avant que le podcast débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'établir chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast! Louis-David Coulombe, Engineering Manager et architecte B2B chez Nesto. Merci d'être avec nous cette semaine. Comment vas-tu, Louis-David?
Ça va très bien. Merci, Jonathan, pour l'invitation.
On est super content que tu l'aies accepté. Je t'ai lancé cette invitation-là quand on s'est croisé pour la première fois dans un événement de Ça se passe. On salue notre collègue Frank qui a son propre podcast pour les sujets de SaaS et de développement de logiciels. Mon Dieu, j'ai aimé notre discussion. Louis-David, un gars super allumé, il me parle qu'il est chez Nesto. On a quand même des petits tâtons crochus. On jase, je vous écoute, Louis-David, viens faire un petit tour avec nous autres sur le podcast, nous expliquer un peu ton parcours pour te rendre jusque chez Nesto. Puis parle-nous un petit peu aussi en même temps, c'est de Nesto. Il doit avoir quand même certains défis dans le sens que dans l'industrie où ce que Nesto opère, c'est une vieille industrie qui était due pour être modernisée. Nesto est un peu l'entreprise qui est en mode, on va moderniser tout ça. Donc, ça crée des différences de vitesse entre l'industrie elle-même et la vitesse à laquelle Nesto veut avancer. Et là, on avait des bonnes discussions. J'écoute, David, viens nous parler de ça sur le podcast. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés à entendre, un, ton parcours, mais toute cette réalité-là de ce qui se passe, puis les clashs que ça peut faire un petit peu. Des fois, il peut y avoir des frictions, des bonnes choses aussi à travers tout ça. Donc, nous voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'interviewer Louis-David. Donc, on va partir un petit peu de ta propre genèse, de qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu jusque chez Nesto. Et après, on saute dans le sujet un peu pointu de Nesto et de la réalité d'aujourd'hui. Donc, je te pose une première question, Louis-David. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment ça a commencé là, de t'intéresser à la technologie et tes premiers emplois, là, le tout début?
Ben écoute, ça a commencé assez tôt. Mon père est en informatique. Déjà là, j'ai été bon pour jouer un peu avec un peu tout étant jeune. Mais tu sais, la première jeunesse, c'est vraiment quand j'ai commencé mon parcours en ingénieur informatique. J'ai gradué, puis après ça, j'ai comme fait les escaliers de la technologie. Fait que je suis parti vraiment à un bon niveau. Ma première job, c'était sur des systèmes embarqués chez Olympus. Vraiment, vraiment jouer avec des PGA, puis connaître comme vraiment la mémoire, les bits directement sur le hardware. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai monté l'escalier des différents business. Puis maintenant, ben je suis rendu dans le club. C'est quand même un bon parcours. Fait que dans le fond, c'est ça, j'ai fait du hardware quand même un petit moment. Après ça, j'ai fait un peu plus dans du niveau applicatif, traitement de données pour des satellites chez ABB. Puis après ça, j'ai été recruté chez Expertsea. C'était techno pour l'aquaculture. C'est vraiment une niche à Québec avec des clients partout dans le monde, sauf à Québec. Donc, on faisait du ML, du machine learning, de la vision numérique. Au tout début, quand c'était pas tellement à mode, fait que fallait faire tout à la main. Puis dans le fond, parmi ce parcours-là, j'ai été aussi appelé à faire un peu de produits. Donc, j'ai été product manager chez Expertsea. J'étais allé sur le terrain, les pieds dans le vase sur le bord du pond pour compter des crevettes puis voir à quel point la réalité est différente sur le terrain que dans les bureaux de Québec. Fait que ça m'a permis un peu de voir le côté client, être capable de vulgariser ce qu'on essaie de faire, puis aussi de bien comprendre c'est quoi la réalité, puis de un peu essayer de traduire ça en niveau tech par la suite.
Et ça a été un petit peu ton introduction dans le monde du produit. Fait que là, t'es parti un petit peu plus du monde du zéro puis du 1 à hop, on commence à parler aux clients, on commence à être sur le terrain, on commence à comprendre qu'il y a un produit, faut le comprendre, faut le mettre en marché, faut y donner une vie, faut y donner un élan. Et là, t'as fait un certain temps dans cette entreprise-là, je pense, puis t'étais quand même acquérir des bonnes compétences. Et là, qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'après ça, t'as commencé à t'intéresser du côté des banques, du côté de la finance? Il y a eu comme un petit, je pense, une petite transition à ce moment-là. Là.
Yes, exact. Là, j'ai fait un petit bout en produit, j'ai fait toucher un peu à tout. J'ai rencontré aussi des gens de l'industrie dans un autre startup dans lequel je faisais du produit. Mais là, ça m'a permis de partager, genre de rencontrer des gens dans le domaine de la finance. J'ai rencontré Rockefeller Capital, on a discuté avec BMO. Donc, ce qui m'a amené vers cette transition-là, là, c'est vraiment de, tu sais, le product market fit, de bien comprendre est où l'argent. Parce que je pense que c'est un des trucs qui est dur dans une startup, c'est et comment on va faire pour monétiser ça. Puis après, on fait quelques endroits, c'est vraiment de dire, hey, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Puis c'est de cette manière-là qu'on va être capable de monétiser notre produit tout en répondant aux problèmes du client. C'est vraiment ça qui m'a ramené comme chez Nesto, puis c'est ça qui m'a allumé.
Et je suis curieux, dans le fond, Nesto, est-ce que c'est toi qui as postulé directement là-bas? Est-ce que c'est par un contact qui te dit, hey, ils cherchent quelqu'un dans ce genre de poste-là? Est-ce que c'est eux qui t'ont fait signe? Qu'est-ce qui fait que tu as été chez Nesto?
Hein? Ben, en fait, c'est un ancien collègue de chez Expertise qui est maintenant VP chez Nesto, VP Engineering, qui m'a dit, hey, avec ton parcours, mélange produits, tech, ça serait un super bon fit pour rejoindre chez Nesto. On est en train de spinner le côté B2B, donc on aimerait ça que tu te joignes. Puis j'étais dû pour un challenge, j'étais dû pour retourner en engineering, donc mon rôle d'engineering manager, mais aussi avoir un peu un tie-in avec le côté client, c'est comme le meilleur des deux mondes.
Et je ferai un petit zoom-in sur la partie B2B parce que j'aimerais ça qu'on prenne peut-être une petite minute ou deux pour expliquer qu'est-ce que Nesto pour les gens qui ne connaissent pas. Ça me surprendrait qu'il y ait des gens... D'après moi, pas mal tout le monde va savoir c'est quoi Nesto, mais juste au cas où, on va expliquer c'est quoi, qui à l'origine était beaucoup un B2C, donc d'aller chercher des consommateurs directement. Et là, on va expliquer c'est quoi le spin de Nesto par rapport au B2B. Je te laisse nous expliquer un peu là en quelques mots qu'est-ce que Nesto et c'est quoi le fameux spin B2B. Là.
Donc, Nesto, c'est une plateforme de prêt hypothécaire en ligne. En fait, Nesto, c'est le premier lender 100% digital au Canada. Fait que dans le fond, le but, c'est on va en ligne, on reçoit une quote. Dès que tu t'inscris chez Nesto, on te contacte directement puis on continue ta soumission. Le but, c'est de faciliter puis d'enlever toutes les barrières les plus que tu as durant la recherche d'une hypothèque. Donc, toute la gestion des documents, super sécurisée, plateforme en ligne, contact direct avec ton agent. Puis tu sais, le but, c'est de streamliner ça puis de faire ça le plus rapidement possible pour qu'il y ait le moins de friction possible. Donc, ça, c'était la partie produit B2C Nesto, ouvert à tous, clients directement chez Nesto. Mais en bâtissant cette plateforme-là, on s'est rendu compte que ben c'est une plateforme qui est assez unique, mais qui répond à un besoin de l'industrie. L'industrie du mortgage, c'est quand même une vieille industrie. Il y a peu de joueurs. C'est, dans le fond, c'est les 6 grosses banques, puis à peu près une dizaine, peut-être maximum une quinzaine d'autres joueurs à côté, mais qui roulent sur des technologies bancaires de là, 40 ans, 50 ans.
La deuxième guerre mondiale, bagage. On va se le dire. Là, c'est
exact.
Même voir peut-être la première guerre mondiale. Là, honnêtement, c'est hallucinant.
Ouais, c'est ça. Le COBOL, le mainframe, ça fait partie du langage courant. Donc, Nesto d'apporter une nouvelle plateforme technologique, tu sais, qui va permettre d'améliorer. On parle beaucoup de, tu sais, AI, machine learning, de tout ce qui s'en vient. Donc, c'est une plateforme plus à jour pour aller de l'avant puis améliorer le retour sur investissement de ces compagnies-là.
Donc, le spin actuel, en partie Nesto, c'est d'aller prendre cette plateforme-là qui a été développée à l'interne pour les besoins de Nesto en B2C et de la commercialiser pour que les grands prêteurs, les grandes banques ou les autres joueurs de second niveau, je dis second niveau, mais ça veut pas dire qu'ils sont plus petits, là, pour qu'ils utilisent cette technologie-là pour propulser leurs opérations. C'est un petit peu ça, là, le mouvement que Nesto est en train de faire. Là.
Exactement. Donc, on a la partie technique, mais on a aussi des gens à l'interne, des underwriters, on les appelle en anglais. Donc, ils vont faire le dossier de A à Z. Donc, c'est une plateforme de hypothécaire en ligne. On offre tout, mais tu sais, c'est possible de la customiser, de dire, bon, mais on peut donner accès à certains gens de l'industrie, rapatrier les hypothèques déjà en cours, de prendre l'hypothèque de A à Z pour ces compagnies-là.
Et là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, un engineering manager et un architecte B2B, qu'est-ce que ça fait dans son day-to-day et c'est quoi ses responsabilités dans le cadre actuel chez Nesto?
Mais dans le cadre de chez Nesto, présentement, comme mon terme engineering manager, c'est que j'ai des équipes qui rapportent directement à moi. Donc, j'ai toutes les deux équipes de servicing qui s'occupent de, une fois que ton prêt est approuvé, qui collecte les paiements à tous les mois ou à toutes les deux semaines sur lesquelles tu fais les paiements. Donc, on s'occupe de l'équipe qui s'occupe de cette partie plateforme-là. Il y a la partie client, mais il y a aussi la partie des agents. Donc, si jamais tu as besoin d'aide, tu peux appeler chez Nesto, puis on va avoir aussi la partie, l'agent peut faire des opérations pour toi, fermer ton mortgage, des trucs comme ça. Puis j'ai aussi la partie, on va dire, un peu plus plateforme, donc tout ce qui est authentification, autorisation, toute la technologie qui bridge la partie. Il y a comme vraiment deux pans chez Nesto, de la partie origination. J'ai peut-être besoin d'une hypothèque jusqu'à « Hey, j'ai signé ». Ça, c'est la partie origination, puis la partie servicing qui est comme une fois que tu as signé, bon, on collecte tes paiements, tu payes ton hypothèque, etc. Fait que tu m'occupes aussi de la partie, on va dire, qui est commune aux deux parties de la plateforme.
Et là, quand on parle d'architecte B2B, là, moi, j'ai une image en tête, puis tu me diras si ça fait du sens de l'imager de cette manière-là, mais c'est la personne qui doit s'assurer que le carré rentre dans un rond, et le rond, c'est probablement l'ancienne, ou je dirais l'inverse, le carré, c'est l'ancienne mentalité, puis les anciennes technologies, puis des grands prêteurs, des grandes banques, puis le rond, c'est la nouvelle technologie que vous apportez. Fait que faire rentrer un carré dans un rond ou l'inverse, je sais pas c'est quoi la bonne expression, mais il y a toujours un défi d'arrimage qui doit pas être évident, là.
C'est exactement ça. Je trouve l'analogie super. D'un côté, il faut que tu essayes de vendre ton rond pour dire, hey, nous autres, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ça notre plateforme. Mais tu sais, ultimement, faut faire arriver les deux systèmes ensemble. Donc, le gars avec le papier sablé qui lime les coins, puis qui est des deux côtés, autant notre équipe tech qui doit dealer avec les nouveaux requis, puis peut-être des formats ou des trucs qui datent de la Première Guerre mondiale, mais aussi d'éduquer puis de faire comprendre comment notre plateforme fonctionne, puis s'assurer que l'intégration fonctionne. Ultimement, le but, c'est que les clients soient heureux puis que ça réponde à leurs besoins. Ultimement, il faut intégrer.
J'aime ton analogie du papier sablé parce que ça doit être tellement ça au day-to-day, de rendre ça un petit peu moins rough un peu partout pour que ça soit plus poli au final puis qu'il n'y ait pas de problème. Mais là, de ce que j'en comprends, c'est que ça vient chercher un peu tout ton background des différentes expériences que tu as eues avant. Tu as le côté cloud, tu as le côté fintech, la partie également logiciel réglementé qui vient à travers tout ça. Parce qu'il y a une réglementation à suivre qui doit être un côté paperasse qui doit être quand même assez lourd à pas nécessairement préserver, mais à se conformer, j'imagine, au bout de la ligne. Donc, c'est l'amalgame d'un peu tous les backgrounds que tu as acquis à travers le temps qu'aujourd'hui te sert dans ton poste là, de engineering manager puis architecte B2B. Là.
Exactement. T'sais, dans le fond, le but, c'est vraiment de vulgariser ce qu'on essaye de faire, de vulgariser les défis d'un côté comme de l'autre, puis de s'assurer d'avoir une vue un petit peu plus haut niveau puis de voir, OK, si on décide d'aller de telle façon, ça va être quoi les impacts à court terme, mais aussi à long terme. Nesto, on veut faire une plateforme qui est un peu plus générique pour que ça soit pas juste customisé pour 100% une personne, mais que ça on puisse la réoffrir et la spinner avec d'autres partenaires. Donc, d'avoir une vision un peu plus long terme qui va suivre la route.
Et là, j'aimerais ça parler avec toi de l'agilité et du waterfall. Puis là, pour ceux qui sont pas habitués avec l'agilité, je vous réfère épisode 22, 25 et 27, où on parle de qu'est-ce que l'agilité, les avantages et comment ça s'implique dans le cadre d'un SaaS. On parle versus waterfall, qui est plutôt une méthode de, on définit tout de A à Z et on part en programmation, puis on se reparle souvent 6, 12, 18, 24 mois plus tard. On livre un logiciel, puis finalement, ça correspond pas aux besoins. La vieille mentalité, j'imagine, des banques et des prêteurs, eux autres, doit être beaucoup en mode waterfall. Une startup se doit souvent d'être en mode itératif, donc très agile. On fait du développement de produits, on teste, on parle aux clients, on se rend compte qu'il faut changer un petit 5 degrés. Là, il y a une problématique probablement que la vieille mentalité, c'est qu'il y a une légalité puis un administratif qui est énorme à travers tout ça. Ça doit être quand même assez complexe dans ton cas à toi, parce que c'est un peu le capitaine ou le gardien de tout ça, de s'assurer que ça fonctionne dans deux styles de gestion différents, puis il doit avoir des moments où ça coince, puis tu fais Colin, ça n'a pas de sens, mais il faut quand même que je fasse avancer les choses. Là.
Exactement. Tu sais, t'as comme le côté, puis c'est pas un peu la, c'est pas tant la vieille mentalité de, tu sais, même les banques fonctionnent de manière agile, mais c'est juste que il y a quand même le côté business de, c'est un contrat légal qui est signé entre deux business. Donc, il y a des milestones, il y a des dates qui sont données, tu sais, il y a quand même un scope qui est défini à l'avance sur lequel il faut que tu réflexes. Puis là, c'est un peu notre job d'essayer de rendre ça agile là-dedans. Mais ultimement, c'est ça. C'est sûr que il y a des choses qu'il faut mettre de l'avant. Comment on va briser ça en petits morceaux? Puis comment, mettons, Nesto, qui était sa plate plateforme, son propre client, qui t'aiderait, comment on s'adapte un peu plus au mode de fonctionnement d'une entreprise beaucoup plus mature qui se fait 40 ans, 50 ans qui opère. Donc, c'est certainement une adaptation. Autant au niveau de dire comment on se prépare, combien on est dans les meetings, puis jusqu'où, comment on fait une intégration, un déploiement, parce que tout ça a un impact au jour le jour.
Et j'aimerais reculer un petit peu par rapport à Nesto au niveau des levées de fonds qui ont été faites. Là, je pense qu'il y a une levée de fonds qui n'a pas si longtemps, ou plutôt quand tu es rentré, je pense, de 80 millions de dollars canadiens pour une série C qui a été faite, si je ne m'abuse.
Exactement.
Et c'était, je pense, Diagram Venture qui était derrière vous, qui est un des fonds des démarrés. Est-ce que je me trompe si j'avance?
Diagram est donc des premiers investisseurs. Le lead, en fait, sur la dernière série-ci, c'est IGM qui ont l'idée avec une partie. Puis c'est entre autres avec eux qu'on intègre présentement. Donc,
le comme client on dit en anglais,
mais put your money where your mouth is.
Wow, okay.
C'est exactement ça qu'ils ont fait. Ça assure qu'on a qu'on croit au partnership et qu'on croit que ça va amener des bénéfices aux deux parties. Puis jusqu'à présent, c'est ça qu'on voit.
Et c'est rare que j'ai la chance d'interviewer quelqu'un qui est dans ce scénario-là où le client est un grand investisseur dans la startup, mais que au final, on va se le dire, ça va dénaturer un petit peu, peut-être au fort, probablement pour un côté positif, la startup elle-même, parce qu'initialement, c'était du B2C. Là, il va y avoir probablement beaucoup de volume en B2B. À l'interne de la startup, comment vous voyez ça? Est-ce que ça cause des enjeux, le fait qu'il y ait un si gros client investisseur puis qu'il y ait un changement, pas nécessairement un changement de vocation, mais un ajout à ce moment-là de l'offre dans le cas de Nesto? Comment ça se passe?
Je te dirais que ça se passe bien, mais c'est un changement de mentalité du fait que on doit non pas tout centrer sur ce nouveau client-là, prendre un pas de recul puis dire OK, comment on peut faire ça pour que le prochain client ça marche encore, ça fonctionne toujours. Fait que ça, c'est, on va dire, le côté ingénierie. On veut bâtir une plateforme qui est de style SaaS, puis qui est réutilisable, puis sur laquelle on peut bâtir. Mais tu as aussi des besoins particuliers qui sont chez ce client. On intègre avec un système en COBOL. Ils ont des formats de données qui n'existent plus. Il y a pas de validation. Puis ben, il faut les ramasser les données. Donc, c'est un peu jouer à les balances, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait chez nous, qu'est-ce qu'on fait chez eux? C'est un peu on essaie de prendre la meilleure décision possible. Puis c'est sûr qu'on a beaucoup d'aide au niveau business aussi. Tu sais, j'ai des collègues, je suis pas tout seul dans les calls avec ça. Puis au jour le jour, c'est moins un enjeu, mais je te dirais que quand on change de phase, puis quand on fait l'établissement un peu des requis puis du big picture de ce qu'on essaie de faire dans une phase, c'est là où on voit le plus gros des clashs.
Le Louis-David, on va se le dire, là, des programmeurs COBOL, ils doivent en rester quoi, un ou deux au Québec? Là? Pas plus, maximum. Là. Ça doit être un enjeu dans ce genre de cas-là, parce que est-ce que, là, j'y vais par curiosité, les questions que je te pose, puis il y a peut-être des éléments au niveau confidentialité que tu peux pas t'avancer, puis je veux respecter ça, mais dans ces genres d'intégration-là, où il y a justement de la technologie COBOL, est-ce que vous staffez à l'interne ou vous utilisez le staff du client ou comment vous fonctionnez dans les si vieilles technologies?
Ben, en fait, la manière que ça fonctionne, c'est que Nesto, on donne des interfaces sur lesquelles on peut ingérer des données. Fait que le plus gros de mon travail, c'est de s'assurer que les interfaces fonctionnent avec eux. Dire, OK, ben, ce format de données-là, on peut l'accepter. On va s'entendre sur un format X. La réconciliation, puis l'amalgame des données, tout ça est fait chez le client. Donc, on n'a pas vraiment à gérer directement avec du COBOL. En tout cas, pas moi. Mais je deal avec des gens au day-to-day qui me disent « Ouais, mais là, ce champ-là, je ne l'ai pas. » Ou il est dans un champ texte avec trois lettres, deux points, un chiffre, un autre deux points, puis de l'anglais, du français ou autre chose. Fait que ton adresse, ça se peut que ça soit difficile là, de la mettre dans un format Canada Post standard.
Donc, c'est eux qui gèrent le côté COBOL, de ce que je peux comprendre, ouais, exact, à l'heure actuelle.
chanceux, j'ai pas eu à apprendre Cobol pour
faire ce mandat-là. Je suis toujours curieux parce qu'on en entend des projets lossiers du Cobol, puis je me dis, mon Dieu, tu sais, si j'avais à, mettons que j'étais un développeur aujourd'hui, puis je me dis, je veux faire beaucoup de sous, là, probablement que ça serait un des langages que j'irais apprendre parce qu'il n'y a plus personne qui apprend ça aujourd'hui, puis il y a encore tellement de vieux systèmes qui roule là-dessus, que la main-d'œuvre doit être difficile à aller chercher, elle doit être en demande, puis mais faut aimer souffrir, par contre.
Oui, exact. C'est beaucoup des consultants. Ouais. C'est souvent ce qui va être fait à ce niveau-là, c'est que tu as un ou deux personnes dans une firme de consultants qui ont de l'expertise, qui sont faire un peu mon rôle d'architecte, mais de leur côté, puis dire OK, comment on va extraire toutes ces données-là puis les amener chez Nestlé.
Fait qu'ils ont le rôle de réussir à partir un feu avec des pierres ou un petit bout de bois, là, puis alors que nous autres, on a le lighter ou la torche complètement, qu'on est capable d'allumer le feu, mais bref. Et autre question que j'ai pour toi, c'est Nestlé, au départ, c'est un produit qui était B2C. Donc, j'imagine, ça a été programmé en conséquence que ça serait pas revendu, cette plateforme-là. Vous arrivez à un spin d'affaires ou un business case que l'autre, on commence à le revendre à un client, peut-être deux, trois clients. J'imagine, il y a une dette technique qui était accumulée parce que c'était probablement pas cette vision-là initiale, ou du moins, c'était pas logique d'investir des sommes au départ. Cette vision-là était pas officialisée. Ça doit être quand même chaotique parfois là, de réussir à prendre ce même code base-là puis peut-être le dupliquer ou créer des branches de plus à l'intérieur puis de réussir à rendre ça pérenne dans une optique de revendre alors que c'était pas ça au début. Là, on parle encore, j'imagine, d'un rond dans un carré constamment. Là.
Je suis très, très chanceux. La techno chez Nestlé est quand même bien faite. C'est pas tant un fait. C'est sûr que ça avait pas été pensé comme ça à l'origine. Là. Donc, tu sais, avoir plusieurs tenants à l'interne, puis ce qu'on appelle tenants, c'est des clients, on va dire B2B. Avoir, c'était pas fait. Il y a des trucs qui étaient comme perte seulement pour Nestlé, mais la stack était vraiment bien faite pour accueillir ce genre de transformation-là. C'est bien découpé. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va rajouter un morceau spécial pour, on va dire, traduire ce qui arrive de l'externe vers l'interne. On va rajouter des morceaux, on va dire, plus génériques, puisque ce qu'on essaie de faire, c'est une plateforme d'hypothécaire. Donc, ultimement, c'est un peu les mêmes concepts et les mêmes business rules. C'est les différents paramètres, c'est des différents produits, c'est des différents taux, mais ultimement, on essaie de prendre tout ce qui est générique et de l'appliquer au Nestlé Core, on va dire, puis de gérer tout ce qui est intégration B2B un peu à côté, s'assurer que ça vive bien dans le temps. Donc, je suis vraiment chanceux à ce niveau-là. Les équipes font un super job, puis ça a été bien designé à la base, donc ça facilite beaucoup le travail.
C'est que c'est une exception, hein? De ce qu'on entend. C'est une exception, j'imagine.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
Là, je prends un guess.
C'est quand même une exception.
Ouais,
j'ai pas vu ça souvent. Par contre, le truc, c'est de dire, bon, maintenant, le scale et ça va être notre prochain enjeu. C'est sûr que c'est bien découpé, mais disons que, mettons, IG, c'est comme 10 fois Nestlé. Puis peut-être que si on monte encore, ça va être 100 fois Nestlé. Donc, s'assurer que ça scale, ça va être un défi.
Et là, je prends un guess. J'imagine que les fondateurs, t'es plus du volet technique que du volet commercialisation chez Nestlé. C'est probablement la raison pourquoi que ça a été bien bâti au départ.
Les fondateurs avaient déjà de l'expérience en startup. Je pense que ça les a bien servi du côté tech, définitivement. Mais la team de fondateurs ont aussi un gros background dans l'industrie puis en marketing aussi. Donc, on a un executive team qui est vraiment well-rounded. Puis je trouve que ça paraît dans notre mandat d'exécution. Autant dans le marketing, on est très data-driven. On sait où sont où les gens qui débarquent dans notre funnel. Autant que la tech stack a été bien pensée. À croire que c'était ça le but ultime de faire du B2B, mais ça, je sais pas.
Et c'est quand même le fun de vous voir aller parce que, selon, puis tu me corrigeras si j'ai pas les bonnes informations, mais Nestlé, fondation en 2018, donc moins de 5 ans. C'est une marque que beaucoup de gens ont peut-être ne connaissent pas exactement ce que vous faites, mais ont entendu ou ont vu le nom. Il y a eu beaucoup de publicité sur les médias sociaux. Moi, j'en vois constamment des publicités, probablement parce que j'ai dû aller une couple de fois sur le site dans le passé ou j'ai dû interagir.
On s'est parlé.
Oui, on s'est parlé aussi, mais je connaissais déjà bien le nom et j'admire beaucoup ce qui était fait en si peu de temps. Vous êtes déjà en ronde C de levée, de ronde de financement. Là, vous êtes 150, 200 à peu près dans l'organisation, j'imagine?
On est pour plus de 310.
Plus de 300, mon Dieu, OK.
Et...
wow.
Ouais. Okay. Ça a grossi vite. Je te dirais que dans la dernière année et demie, là, peut-être 2 ans, on a presque doublé chez Nesto. Là. Je dirais presque 100 de personnes en ingénierie. Mais comme je disais, on a tous les secteurs. On a des... mortgage advisor, on a des underwriters, on a du bon aux services qui sont des au servicing après. Donc, on a tout le soutien autour de la plateforme qui nous permet d'être une plateforme, on va dire, clé en main de peut-être.
Vraiment impressionnant. En si peu de temps, moi, dans ma tête, ça faisait 10 ans que Nesto existait et tentait de conquérir le marché. Mais en si peu de temps, vraiment impressionnant, au-delà de 300 joueurs et autant de capital levé. Et surtout, c'est pas juste du capital qu'on brûle parce que le capital vient d'un client qui va utiliser le produit. C'est ça, je trouve extrêmement brillant parce que la vallée de la mort est pratiquement inexistante. Ou, ben, écoute, ça peut quand même être là, mais c'est pas juste on brûle en essayant d'atteindre certaines métriques. Il y a vraiment un business case, un cas d'utilisation réel du système qui crée de la valeur, qui va propulser un client puis qui va permettre à ce moment-là de se servir de ce client-là pour, j'imagine, aller conquérir d'autres clients puis d'autres marchés. Ça va être vraiment intéressant là, de vous voir dans les prochaines années avancées. Est-ce que chez Nesto aujourd'hui, il y a une visée de conquérir, un, effectivement, le marché canadien, mais deux, d'aller plus loin que ça, d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe? Est-ce que c'est des morceaux que tu as le droit de parler aussi? Là, je veux pas t'amener sur un côté qui...
Je veux pas aller dans trop le terrain glissant. Par contre, on est encore au début du mortgage canadien et on a des normes quand même un peu différentes. T'sais, c'est beaucoup différent du marché américain. Je pense qu'on, pour l'instant, on focus au Canada puis s'assurer qu'on remplit bien nos mandats autant avec nos clients qu'avec la plateforme Nesto. Je pense que c'est ça le focus. On a des investisseurs aux États-Unis, des États-Unis qui ont un background en mortgage aux États-Unis. Est-ce que c'est ça le prochain move? Ça va dépendre de ce qui est, ça va dépendre du marché, ça va dépendre de la conjoncture, I guess, puis des prochains défis qui t'amènent à nous.
Et je suis curieux de savoir dans ton day-to-day, parce que là, vous tentez d'avancer vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Vous avez ajouté beaucoup de joueurs. Vous êtes en mode startup, donc vous pouvez aller à la vitesse que vous voulez. De l'autre côté, là, je me répète, c'est une industrie qui n'est pas habituée de bouger à cette vitesse-là. C'est probablement beaucoup plus slow que la vitesse à laquelle vous voulez avancer. En même temps, c'est un client, c'est un financier, tout ça mélangé ensemble. Au day-to-day, comment vous composez avec ça, avec le fait que probablement vous autres voulez avancer vite, 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 puis il y a probablement beaucoup de bureaucratie peut-être de l'autre côté, puis est-ce que ça cause des problèmes?
Non, ça cause pas vraiment de problèmes du fait que, en fait, présentement, du moins du côté tech, on se concentre sur stabiliser notre plateforme. Comme tu as dit, on a grossi beaucoup, on a ajouté beaucoup de nouveaux morceaux récemment pour justement faire la partie B2B. Je pense que la prochaine année, ce qui va être là, c'est stabiliser le navire, s'assurer qu'on est reliable, qu'on est toujours on point, qu'on atteint nos SLAs, nos Service Level Agreements, qu'on maintient nos certifications. Donc ça, il va y avoir, je dirais que la majorité de notre travail à court terme, c'est vraiment de s'assurer que notre plateforme est stable puis qu'elle grandit dans le futur. J'imagine qu'au côté business, ils sont un peu le canard, là. Ils s'en vont sur le lac, mais ils pédalent par en dessous pour nous trouver le prochain client, notre prochain truc. Mais au niveau de l'engineering, puis mon day-to-day, c'est vraiment s'assurer que notre intégration B2B se passe bien, puis que notre plateforme vit bien dans le futur.
Et il y a probablement plusieurs personnes qui nous écoutent qui sont en train de développer leur SaaS et ils ont peut-être comme option d'aller chercher un client qui pourrait investir dans la business et qui se disent c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Ma question pour toi par rapport à cet élément-là, est-ce que tu penses que le fait que votre premier gros client soit un financier derrière tout ça, que ça vous aide beaucoup dans la collaboration de ce client-là à faire arriver le projet à succès? Est-ce que tu dis, plus je pose la question, que ça va-tu bien que les autres? Tu me réponds oui. Mais selon toi, s'il avait pas mis autant d'argent, peut-être prendrait peut-être pas ça autant au sérieux, puis qu'il collaborerait pas autant dans les meetings, puis qu'il y aurait peut-être plus de friction, parce que c'est rare là, qu'on entend ça, une première grosse intégration comme ça, que ça va bien avec deux équipes, avec une vieille technologie. Moi, j'ai comme une impression que le fait qu'il ait mis autant d'argent sur la table, les exécutifs de l'autre côté, ils ont dit, OK, gang, il faut que ça marche, ce projet-là. Fait que c'est comme si c'était la même business. Mais en réalité, c'est un peu la même business parce qu'ils ont mis tellement de sous. Puis dites-moi pas que le problème est de l'autre bord parce que l'autre bord, c'est notre bord. Et que là, que ça dénoue probablement des nœuds que normalement on verrait. Fait que je suis curieux de voir si t'as cette perception-là que peut-être ça irait moins bien s'il n'y aurait pas eu un financement qui vient de ce client-là.
La première chose que je vais dire, c'est que si on est, je suis content que ça soit arrivé à ce stade-là de la business. C'est-à-dire qu'on avait déjà des bonnes bases, des bonnes assises de fait. Parce que c'est facile de tomber dans, ah, mais là, le client veut ça. Puis on sans nécessairement prendre le recul de dire, est-ce que c'est bon pour la plateforme? Est-ce que c'est bon pour Nesto? Et les futurs clients. Fait que je pense que le premier point, c'est de l'avoir eu à ce moment-là dans l'entreprise. Je pense que ça l'a aidé beaucoup. Est-ce que ça aide au day-to-day? Et oui et non. Je pense que une fois quand ça escalade, tout le monde veut que le projet fonctionne, comme tu dis. Par contre, au day-to-day, c'est pas des gens, tu sais, on a beaucoup de consultants, des gens qui sont pas nécessairement dans le côté business. Que le focus est vraiment de faire arriver la technologie, comment mon système va intégrer avec le tien. Donc, ça enlève pas tous les roadblocks, mais je te dirais que ça nous donne une opportunité de dire, bon, ben, si on n'arrive pas à un consensus, c'est le but, c'est de faire avancer le projet puis que ça fonctionne. Il y a toujours une porte de sortie. Donc, c'est sûr que, ultimement, ça aide, mais au day-to-day, je le vois pas tant que ça. Puis, tu sais, oui, on investit dans notre round, mais c'est une compagnie à part entière, puis tu sais, ils sont pas impliqués au day-to-day. Là. On est vraiment deux compagnies séparées. C'est juste que les incitatifs derrière te rejoignent.
Sont alignés, exactement.
Exact.
Oui, il pourrait avoir le côté pervers que là, je pense pas qu'il arrive, mais qu'il y ait autant d'argent qui soit mis par un investisseur qui est un client, et le client pourrait forcer de dire, ben gars, même si c'est spécifique à moi, ces fonctionnalités-là, vous allez les faire. J'en ai besoin, puis je m'en fous. Ma priorité, c'est pas l'intégration avec plein d'autres mondes par après. Il faut que ça marche chez nous, puis après ça, on verra, tu sais. Il chante pas de ce que je perçois là. Il n'y a pas d'en avoir cette pression-là que vous vivez, là.
Ben, en fait, c'est un peu inhérent. Puis c'est là où il faut faire la distinction quand on se dit, on n'est pas nécessairement un SaaS. On est une plateforme d'hypothécaire. Donc, notre but, c'est de servir nos clients puis de servir des hypothèques. Puis le but, c'est que, parce qu'on n'est pas un Jira, un GitHub où il y a 500 000, des millions de users possibles. Il y a 6 grosses banques puis une dizaine de joueurs, tu sais. Faut que les intégrations fonctionnent. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine flexibilité. Donc, c'est jouer la balance entre, oui, on va faire du custom pour vous, oui, on va faire certains compromis à ce niveau-là, tout en essayant de conserver notre core intact, notre, on va dire, notre business engine qui est propre à Nesto. Donc, c'est sûr qu'on a ces compromis-là à faire. Et on va toujours les avoir. Puis, tu sais, le monde financier, c'est un peu comme ça aussi. C'est des gros sous, c'est des gros projets. T'sais, on parle de milliards en actif, c'est sûr que ça pèse dans la balance, mais ultimement, il faut faire des compromis qui vont nous amener dans le futur, là, le mieux possible.
Bien intéressant. J'aime beaucoup poser la question aux gens qui passent sur le podcast. S'il y a des livres, des podcasts ou des formations qui ont changé un peu ton parcours ou qui t'ont inspiré, que tu aimerais peut-être partager avec les gens de l'auditoire. Donc, je te pose la question, David. As-tu des choses que tu aimerais partager de niveau livre, podcast et formation?
Podcast, il y a un que je suis religieusement toutes les semaines. Ça s'appelle All In Podcast. C'est 5 entrepreneurs aux États-Unis et milliardaires en SaaS qui sont partis d'un podcast. Mais tu sais, ils touchent à tout, autant SaaS que politique américaine. Je trouve qu'on devrait avoir l'équivalent au Canada. Ça serait vraiment intéressant parce que je trouve que je suis plus au courant de l'actualité américaine que l'actualité canadienne. Fait que ça, c'est mon go-to à toutes les fois. Sinon, niveau livre, récemment, j'ai lu la biographie de Matthew McConaughey, puis j'ai vraiment trippé. C'est super beau narratif, puis son parcours est vraiment funky. Fait que ça fait du bien de faire un jeu de la tête aussi.
Et je connais pas la personne en 30 secondes. Qu'est-ce que cette personne-là?
Matthew McConaughey, c'est l'acteur qui a joué à Dallas Buyers Club.
Excellent, ça me revient. Fantastique.
Un Texan avec un accent vraiment funky. Son audiobook, c'est lui qui le narrate aussi. Fait que ça vient, ça rajoute une couche. Et il est super bon narrateur. Donc, ça.
Et pour le podcast en ligne, je partage la même opinion que toi. On a commencé à faire un peu un mini équivalent canadien avec Antoine de G7 Media sur le podcast Hyper Croissance. À tous les jeudis, on essaie de prendre des petites nouvelles d'actualité. C'est pas exactement le même format, mais on s'inspire un petit peu de ce qui se passe de leur côté. On n'est pas tous comme eux, des millionnaires ou des milliardaires, mais bon, on est juste deux, on n'est pas cinq. Mais bref, on amène notre version québécoise là-dessus. En terminant, est-ce qu'il y a un petit quelque chose qu'on la communauté peut faire pour t'aider? Est-ce qu'il y a des postes d'ouvert chez Nesto? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais solliciter la communauté aujourd'hui qu'on puisse te retourner la balle de ton côté?
C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Je cherche un team lead dans une de mes équipes de servicing pour venir s'occuper de sa plateforme, une des équipes de notre plateforme. Donc, mais on a aussi beaucoup de postes ouverts en DevOps, en produits, des staff back-end. On a besoin des gens en légal, aux opérations, que ce soit du underwriting, puis du retention specialist, même de la au niveau accounting. Donc, on a beaucoup de postes ouverts chez Nesto. N'hésitez pas à nous joindre sur LinkedIn ou à aller voir directement sur le site web.
Fantastique. Fait qu'on va mettre les notes dans la description de l'épisode. Donc, nesto.ca également, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Louis-David, autre chose avant qu'on se quitte pour aujourd'hui à rajouter?
Non, merci beaucoup pour l'opportunité. C'était très cool de jaser.
Merci beaucoup à toi. Honnêtement, c'est super intéressant d'entendre un petit peu, ton parcours, mais l'inside aussi de ce qui se passe chez Nesto. C'est une belle marque, un beau brand, je pense, qui bouge très rapidement. Toujours le fun de voir qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes. Merci ta générosité aussi de nous partager tout ça. Puis on va te souhaiter à toi et à Nesto un excellent et un bon succès devant nous. Et ça pourrait être intéressant de se suivre dans les années à venir, là, de voir l'évolution autant de toi chez Nesto ou autre endroit que autant l'évolution de Nesto. Fait que merci encore une fois, Louis-David, d'être des nôtres aujourd'hui. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine. Voici quelques points de ce que je retiens de ma discussion cette semaine avec Louis-David. Premièrement, le fait d'accumuler plusieurs compétences dans différents domaines peut servir dans le cadre d'un poste au sein d'une start-up de produits. Si vous êtes du côté employé, ne négligez pas la plus-value de vos compétences transversales accumulées. Donc, si vous choisissez la bonne start-up, ça pourrait vous être grandement utile. Deuxièmement, pour avancer plus rapidement, il peut être intéressant de faire entrer au capital action un de nos clients, tel que Nesto l'a fait. Troisièmement, donc c'est une perception que je vous transmets là, aucune industrie n'échappera à une modernisation par la tech, même s'il s'agit d'une industrie oligopolisée, donc excusez-moi le gros mot, je ne sais pas si ça existe, mais une industrie dans laquelle il y a plusieurs grands joueurs qui forment un oligopole, donc qui ont un monopole un peu du marché à quelques joueurs. Donc, c'est le cas de l'industrie des prêts hypothécaires et c'est ce que Nesto tente de faire, donc de révolutionner cette industrie-là ou du moins de moderniser par la tech cette industrie-là. Je dirais même qu'ils sont en train d'y arriver à grands pas. Dernièrement, pour réussir à se battre contre des gros joueurs, il faut du talent en profusion, il faut de l'argent en profusion. Donc, Nesto semble l'avoir bien compris et c'est pourquoi qu'en si peu de temps, ils se sont rendus à plus de 300 joueurs dans l'équipe et ont levé plus de 160 millions de dollars de financement. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous, donc notre récompense est votre partage, votre abonnement, commentaire ou même une note 5 étoiles. Donc, en ce sens, si cet épisode vous a plu, merci de prendre un grand ou gros 30 secondes pour le partager à quelqu'un dans votre entourage, vous abonner, nous laisser un petit commentaire ou nous donner en bon français un rating 5 stars. Donc, je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine.